juste quelques mots pour dire Lazare, Dieu aide. Il y a une relation, un lien inébranlable, un lien ineffaçable, un lien inaltérable entre Lazare, dont on connaît le prénom, et le riche, dont on ne sait pas qui il est. Un lien qui ne sera jamais rompu, même dans la mort. Ils sont liés. Ils sont liés l'un à l'autre, quelles que soient leurs conditions de vie à chacun. Dans le texte grec, on ne dit pas que Lazare était devant le portail en train de giser. Gisait devant le portail. Non, non. Dans le texte grec, on dit « il était jeté au portail ». Ce qui veut dire que sans doute, le riche l'avait jeté dehors. On ne sait pas pourquoi. Mais voilà l'histoire de ces deux personnes. Leur histoire vient nous rejoindre aujourd'hui, en ce jour de prière mondiale pour le migrant et les réfugiés, parce que dans nos pays où on a du mal à ouvrir la porte, viennent frapper des gens qui veulent trouver aussi une place. Et de là où je suis, quand je regarde notre assemblée déjà, on voit des gens qui viennent de partout. L'île Maurice, Haïti, l'Indonésie, l'Italie, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry, la Corée, et j'en passe et j'en oublie. Et même de l'intérieur de notre pays, nous ne sommes pas tous d'ici. Nous n'avons pas de pierre où reposer notre tête. Nous sommes des migrants sur cette terre. Et du coup, avec Lazare, dont le riche demande à ce qu'il trempe son doigt dans l'eau pour le rafraîchir lui, alors qu'ils ne peuvent pas être à côté, là, dans cette image, nous trouvons qu'il y a un lien entre ces deux personnes. Nous avons un lien avec ces gens qui viennent frapper à nos portes. Quel accueil leur faisons-nous? Comment ouvrons-nous notre porte? Il est important, parce que souvent on part sur des préjugés, on part sur des idées, il est peut-être important, parfois, de leur laisser la parole, de leur donner la parole à eux, qui viennent nous donner leur témoignage. Et c'est ce que je fais maintenant.
Bonjour à tout le monde, je suis Karim, j'ai 20 ans, je viens de Guinée, et il y a de cela 3 ans ou 4 ans que je suis en France, je vis ici, à Marseille. Et je suis migrant, comme un bon nombre de personnes qui vivent en France. Et j'ai eu mon bac cette année et je passe des études de négociation au sein du groupe EDF, précisément à Enedis. Ça, c'est la présentation que j'aime beaucoup plus donner, parce que c'est la présentation qui cache beaucoup le parcours que j'ai connu et dont beaucoup de personnes aiment entendre. Mais au-delà de ça, j'ai vécu d'autres choses. Parce que, comme vous le savez, il n'y a aucun migrant qui prend le vol pour arriver ici ou descendre dans n'importe quel pays. C'est toujours des trajets compliqués. Et moi, c'est mon cas. Il y a 5 ans de cela, ou 6 ans, même en rêve, je n'aurais jamais imaginé de quitter mes parents à 16 ans ou 15 ans. Et c'est suite à une élection présidentielle dans mon pays où mes parents étaient disons, soutenait un parti par rapport à l'autre. Et le parti que mon papa soutenait n'a pas obtenu l'élection. Et comme vous le savez, en Afrique, où bon nombre de pays, dès qu'il y a une élection, le parti qui se retrouve du côté de l'opposition est considéré comme un ennemi. Et la répression a commencé de là. Mon papa qui, de temps en temps, parlait à la radio où on voyait derrière le candidat, s'est retrouvé pris au piège, y compris les enfants qui partaient à l'école ou mon grand frère qui travaillait. Ça commençait à devenir un peu compliqué et ma maman, étant donné femme et qui a toujours peur pour ses enfants, a demandé à mon frère, étant, comme tu es plus âgé, il faut que vous quittiez le pays. Et moi, dans ça, je voyais comme si c'était un jeu. J'ai suivi mon frère, on est sorti du pays, on a traversé pas mal de pays jusqu'au Maroc. Toujours moi je ne comprenais rien, parce que pour moi, ce qui m'importait à l'époque, c'était aller à l'école, revenir jouer au PlayStation avec mes camarades. Ma vie s'était résumée à ça. Et du jour au lendemain, je bascule dans une autre vie où je devais dormir aujourd'hui ici, dormir demain dans un autre endroit. Et je viens au Maroc avec mon frère. On reste pendant un long temps. Et un jour, je vois deux personnes venir me chercher à la maison. Viens, il y a ton frère qui veut te faire partir dans un pays où tu peux être libre et peut-être tu pourras continuer tes études. On ne sait jamais. Et j'étais content, je me disais, je vais me retrouver avec mon frère de l'autre côté, vu que lui, il n'est pas là. C'est des personnes qui sont venues me chercher. Lui, il est déjà parti. Et au bout du trajet, je me retrouve dans un pays où on parle espagnol. On me laisse dans un endroit, je demande où est mon frère. Il me dit non, il ne peut pas venir. L'argent qu'il avait ne pouvait pas vous faire passer. Donc il a payé pour que toi tu passes. Je dis, c'est pas possible. J'ai toujours vécu sous son aide. J'ai jamais travaillé, j'ai jamais fait quoi que ce soit. C'est lui qui m'a pris en charge jusqu'ici. Comment se fait-il qu'on s'est séparé? Je me dis, ah, ça, c'est pas notre problème. Et du coup, il y a la police espagnole qui est venue me chercher, m'a envoyé dans un camp de réfugiés mineurs où j'ai resté pendant 4-6 mois à apprendre l'espagnol en vue de passer de l'enclave espagnole qui se trouve au Maroc pour venir en Espagne. Arrivé en Espagne, on me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai dit, je n'ai rien autre à faire que d'aller à l'école. Pour l'instant, je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire. Ils me disent, si tu dois aller à l'école, tu dois reprendre l'école. Et moi, j'étais au lycée, dans mon pays. Ils disent, j'aimerais bien aller dans un pays où je peux, où en tout cas, j'ai quelque chose de commun, la langue. Ils m'ont dit, ok, on peut t'envoyer dans un pays francophone. J'ai dit, où est-ce que tu aimerais aller? J'ai dit, moi, j'aimerais aller en France. Et moi, dans ma tête, c'était Paris. Parce qu'en Afrique, quand on regarde la télé, c'est Paris qu'on voit. Et on m'envoie à la gare avec un ticket de bus. Je vois sur le ticket, c'était écrit Marseille. Je me demandais où c'était Marseille. Et le bus m'envoie jusqu'à la gare Saint-Charles. Je descends à la gare. Peut-être parmi vous, il y a pas mal de personnes qui passent à la gare, qui voient des personnes défiler, qui ne savent pas où aller. Ça m'est arrivé, je suis descendu à la gare, j'ai cherché gauche à droite, tout le monde est pressé. Dès que tu essaies de demander à quelqu'un quelque chose, il pense que c'est peut-être des sous que tu demandes. Donc il n'y a personne qui a le temps. J'ai eu quelqu'un qui est venu de nulle part me demander qu'est-ce que je cherche. J'ai dit, je viens d'arriver à Marseille, je n'ai nulle part où aller. Est-ce qu'il y a des associations comme en Espagne qui pourraient prendre en charge des gens? Et cette personne m'a conduit à ADAP 13. C'était l'organisme qui s'occupait des mineurs isolés. Et arrivé là-bas, pour moi, c'était directement au foyer. Me demande des papiers, l'extrait de naissance. Dans ce voyage, moi, je n'ai jamais cherché à avoir un bout de papier sur moi. Jusqu'au moment où j'arrive dans cet organisme, on me demande d'extrait de naissance, du passeport. Il dit ça, j'ai jamais eu moi, même si j'en ai eu, c'est mes parents qui l'ont. Ils me disent, il nous faut ça pour que tu passes devant le juge et qu'on t'envoie au foyer. En attendant, vous pouvez venir lundi, mercredi et vendredi, prendre une douche, manger, et pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire pour toi. Il dit, bah, déception. Et courage. Le soir, je me promène comme tout le monde, comme tous les migrants au premier jour, de dormir à la gare. Entre temps, suivre des ateliers de français. Et un jour, il y a une fille qui est suisse, qui travaille pour une association, qui m'a pris et m'a envoyé au centre social d'Andou. C'est parti de là-bas, les contacts ont eu lieu et le centre social d'Andou m'a contacté la CIMAD, c'est tombé sur Marie-Thérèse, que je remercie beaucoup aujourd'hui, qui a fait beaucoup de choses pour moi. Et Marie-Thérèse m'a contacté, m'a demandé comment ça se passe, je l'ai expliqué. Et le lendemain, j'ai reçu le coup de fil de Père Jordi, me demandant où je suis. Je lui ai dit, je suis au Vieux-Port. Il vient me chercher, on passe dans un café, on prend un café, ce que je n'avais jamais fait. C'est des choses qui sont luxueuses pour un migrant. Prendre un café, s'asseoir sur un bar. Il m'envoie dans un bar, on prend un café, on cause, il me ramène à la maison, à la paroisse ici. Je reste quelque chose de 2 mois en attente que l'organisme qui devait s'occuper de moi m'envoie au foyer. Et dans ces 2 mois, je vivais à la paroisse ici avec Père Jordi, accompagné de certains de ses collègues qui m'invitaient à des sorties. Je pense à Pierre Fille qui m'a fait pour la première fois une sortie à randonnée. Avant, j'attendais la randonnée, je ne savais pas à quoi ça servait. Et un jour, Pierre Fille m'a appelé pour me dire on organise une randonnée, on est parti en montagne, c'était au Libéron, je n'ai jamais oublié le nom. C'était ma première sortie avec des amis, une famille. Et j'ai commencé à construire un réseau d'amis avec l'aide du Père Jordi qui m'a accompagné, qui m'a montré comment ça se passe à Marseille, m'a accompagné au niveau des associations. Et bizarrement, il y a l'association Adaptrez qui m'appelle pour me dire qu'ils m'ont trouvé un foyer. Et j'ai quitté ce Père Jordi pour aller au foyer où j'ai resté un an. Après c'est un an. Quand j'ai eu mes 18 ans, il fallait sortir du foyer. Et quand on sort du foyer, à 18 ans, toujours pas de famille, il faut compter sur les amis. Et j'ai été récupéré par les sœurs du lycée Saint-Vincent de Paul, qui m'ont hébergé le temps de zigzaguer un peu, avoir un titre de séjour te permettant de travailler. Et aujourd'hui, j'ai un titre de séjour d'un an que je renouvelle tous les ans, conditionné par une inscription à une école ou un travail. Donc, toujours prise au piège. Ton pays, tu as des problèmes dans ton pays, tu ne peux pas rentrer, mais le pays où tu es, c'est conditionné pour rester. Donc, c'est une vie de stress ou en tout cas, où tu es obligé de faire quelque chose pour y rester. Mais grâce aux amis et appui des uns et des autres, des associations, des personnes de bonne volonté, on se sent parfois ce soir. Moi particulièrement aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis qui me demandent, quand je parle du Père Jordi ou bien des prêtres que je suis en contact, ils me disent, mais Karim, tu t'appelles Karim? J'ai dit, oui. Mais moi, quand je suis venu en France, c'est pas, disons, des personnes que je partage les mêmes religions qui m'ont pris dans leurs bras. Pour moi, aujourd'hui, c'est une famille. Le monde est une famille. Et cette distinction que j'avais dans ma tête au début, où je disais je suis musulman ou lui, il est chrétien, ça s'est disparu petit à petit parce que, au fil du temps, j'ai compris que ce que les uns ont fait pour moi dans les 4 à 5 ans que j'ai vécu en France, c'est énorme et ça m'a beaucoup aidé et je les remercie beaucoup. Peut-être beaucoup ne sont pas là, mais les maritiers, la famille Léa, vous m'avez pris au moment où j'en avais besoin. Père Jordi également, je vous remercie beaucoup.